très bonne année, surtout.
Merci beaucoup, et à vous tous aussi. Merci. Merci à tous. Merci à Hugues Bouard qui a réalisé cette émission. Merci à Eusy Saada qui nous a accompagnés pour les informations. Merci à Florian Lanoir qui a préparé toute cette semaine cette émission. Je vous laisse entre les mains demain de Valérie Darmon pour tout le week-end et lundi l'ami Olivier Delacroix. Et là, c'est Marlène Duré qui va vous accompagner toute cette nuit. À très bientôt et merci de m'avoir donné cette confiance d'être avec vous toutes ces deux semaines de fête sur la libre antenne d'Europe 1. À très bientôt.
Merci Roland, rentrez bien, je vous souhaite une très bonne nuit. Une heure, Europe 1 n'a pas sommeil. Et nos programmes de nuit vont donc débuter avec le récit de Christophe Ondelat. Aujourd'hui, une très belle enquête du 36 quai des Orfèvres à Paris, la fameuse brigade criminelle, une enquête sur l'assassinat d'une étudiante suédoise et qui va déboucher sur un prédateur extrêmement dangereux dont vous découvrirez le nom au fil du récit. Bienvenue dans Ondelat raconte.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire commence le samedi 19 avril 2008 par la découverte d'un corps dans une forêt d'Avilly-Saint-Léonard, dans l'Oise. Un corps posé là, sur un chemin forestier. Ce corps, en vérité, des tas de gens le voient avant. Des joggeurs qui, quand ils apprendront la nouvelle, diront « Ah, je l'ai vu !» Mais j'ai cru que c'était un mannequin en plastique. Ce corps, une femme qui passait par là le matin tôt, l'a même vu brûler. Elle a prévenu les pompiers. Ils ne se sont pas affolés, avec l'humidité, il n'y avait pas de risque. Elle avait une bonbonne d'eau dans sa voiture, elle l'a aspergée, ça a éteint le feu. Et elle aussi, elle a cru que c'était un mannequin. Et ça n'est qu'en fin de matinée, un peu avant midi, qu'une promeneuse voit d'abord le bouchon d'un jerrycan d'essence sur le chemin. Et tout à côté, le corps d'une femme. Une femme à moitié brûlée. Ou plutôt ce qu'il en reste, disons un amas de chair. Et c'est elle qui appelle les gendarmes de Senlis, et c'est comme ça que cette affaire commence. Le corps est face contre terre. Tout le haut, les épaules, le dos, la poitrine sont brûlés. Mais le bas est quasi intact. Elle porte un jean. C'est une femme de 25 à 35 ans, les cheveux châtain très clair, presque blond. Le visage n'est pas brûlé. Elle avait les yeux bleus. Et ce qui frappe tout de suite, ce sont ses mains. Elle a les mains menottées dans le dos, avec ce genre de menottes made in China qu'on trouve dans les sex shops. De quoi est-elle morte? Le légiste ne va pas tarder à nous le dire. Regardez bien là. Vous voyez? Il y a un orifice d'entrée de balle là, juste derrière l'oreille. Vu la taille de l'orifice, 5 mm environ. Je dirais que c'est un 22 long rifle. Et c'est du 22 long rifle, puisqu'on retrouve deux balles près du corps et une autre sous le corps. Elle a une pièce d'identité sur elle? Non. Non, je vois rien du tout. À part ça, on trouve un vieux slip pas loin et des capotes usagées un peu partout autour. Manifestement, on se donne du plaisir dans ce bois. Au moment de l'autopsie, les légistes identifient des hématomes sur la tête, au niveau du front. On l'a frappé avant de la tuer. Et aussi une plaie sur le sein gauche, une drôle de plaie d'ailleurs. Cylindrique, on pense tout de suite à un pic à glace. Une plaie qui a perforé le poumon, c'est de ça qu'elle est morte. Elle est morte asphyxiée. Et d'après le toubib, son agonie a duré plusieurs minutes. L'autopsie confirme qu'elle a aussi reçu 4 balles dans la tête, dont 3 dans la tempe, qui ont été tirées à bout touchant. Sans doute post-mortem, parce que les plaies n'ont pas saigné. Quand on lui a tiré ces 4 balles, elle était déjà morte. Ah, important. Dans son sang, on trouve 1,24 g d'alcool par litre de sang. Dites-moi, docteur, d'après vous, elle a été violée? Je peux pas répondre à cette question. Ses organes génitaux sont complètement brûlés. D'après vous, à quand remonte la mort? Je dirais environ 8 heures avant la découverte du corps. Voilà. Vous savez tout. Tout ce que savent les gendarmes au moment où débute cette enquête. impossible de faire ce qu'on appelle une enquête de voisinage. On est dans un bois. Les premières maisons sont trop loin. Et donc les gendarmes installent un barrage filtrant sur la départementale voisine. Et ça leur permet d'obtenir un témoignage très intéressant. De quelqu'un qui partait au travail et qui est passé dans le coin ce matin à 6h25. Oh, j'ai vu une voiture. Elle était garée juste avant la barrière du chemin forestier. C'était un monospace blanc. Vous avez une idée de la marque ? Moi, je pense que c'était un Citroën. Un Évasion. 280 voitures ont été flashées la nuit dernière dans l'Oise et la région parisienne. Mais pas de Citroën Évasion. Bon, voilà une enquête qui d'entrée n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a plus qu'à compter sur la providence. Pas pour longtemps, je vous rassure. Car il existe dans les fichiers de la police une fiche au nom de Susanna Zetterberg. Une Suédoise de 19 ans, blonde, qui a été signalée disparue par ses amis à Paris depuis le matin du 19 avril, le jour où on retrouve le cadavre dans la forêt. C'est une de ses amies qui a appelé la police ce jour-là. Sana, comme ils l'appellent tous, devait embaucher à 8h30 dans une boutique où elle est vendeuse le week-end. Elle n'y est pas allée et depuis, pas de nouvelles. Alors est-ce que c'est elle, la morte dans la forêt ? Eh bien c'est probable. Physiquement, ça colle, même si on la voyait un peu plus vieille. Et surtout, les copines reconnaissent le blouson et le foulard retrouvé sur le cadavre. Et donc, on a le nom de la victime, Susanna Zetterberg. Et maintenant, il faut retrouver celui qui lui a fait ça. Celui qui lui a transpercé la poitrine, bim ! Et après ? Il faut le faire ! À une gamine de 19 ans, une jolie gamine comme Susanna. Pourquoi ? Pourquoi ? L'histoire commence à Paris, le procureur décide de retirer l'enquête aux gendarmes et de la confier au 36 quai des Orfèvres. Et rapidement, les policiers de la criminelle, en interrogeant les copines et en décryptant le relevé de portable de Susanna, parviennent à reconstituer son emploi du temps dans les heures qui précèdent son assassinat. Susanna passe la soirée avec deux amis venus de Suède dans une boîte de nuit de la rue de Rivoli, à Paris. La Scala. À 4h30, elle a pas mal picolé. Ça explique qu'on ait retrouvé 1,21 g d'alcool dans son sang. Susanna quitte la boîte. Je rentre, les filles. Demain, je dois travailler. Et là, si on regarde son portable, ça paraît clair. Elle monte dans une voiture. À 4h50, son téléphone borne boulevard Saint-Germain. C'est à l'opposé de là où elle est censée aller, c'est-à-dire chez elle, pour dormir. Là, elle téléphone à un ami qui ne répond pas. Son téléphone borne ensuite sur l'esplanade des Invalides. Et là, elle appelle un autre copain, en Italie, qui lui répond et qui raconte sa conversation au flic.
Ah, écoutez, j'ai pas vraiment compris ce qu'elle m'a dit. J'ai l'impression qu'elle avait pas mal bu.
Quelques minutes plus tard, à 4h56, son téléphone borne à la gare Saint-Lazare. Et 6 minutes encore plus tard, elle est avenue Niel, dans le 17e. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où va-t-elle ? On est de plus en plus loin de chez elle. À 5h, Susanna passe un dernier coup de fil. Sa copine ne répond pas, mais elle laisse un message de 50 secondes.
Je suis dans un taxi. Mais c'est un taxi bizarre. Mais je rentre bientôt. Je suis dans un taxi. Mais c'est un taxi bizarre. Mais je rentre bientôt.
Un taxi. Intéressant. Ensuite, la voiture prend le périphérique, puis l'autoroute A1 en direction du Nord et de l'Oise, où on l'a retrouvée morte. Elle tente une dernière fois de passer deux coups de fil à des amis qui ne répondent pas. Et ensuite son téléphone s'éteint. On perd sa trace. Alors on se rencarte sur la gamine. C'est une Suédoise de 19 ans, très jolie, qui suivait à la Sorbonne des cours de civilisation française. Elle apprenait notre langue.
Rien de louche dans sa vie. Une gamine rigolote, mais sérieuse d'après ce que disent ses amis. Susanna, c'était pas du tout le genre à suivre n'importe qui, pas du tout. Est-ce qu'elle a pu tomber sur un prédateur en boîte de nuit? Ses copines ne se souviennent pas qu'elle se soit faite draguer ou qu'elle ait parlé à quelqu'un. Mais ne faisons pas mine qu'il n'y a pas de piste. Il y en a une. Elle est dans le message laissé à sa copine Vera.
Je suis dans un taxi. Mais c'est un taxi bizarre. Mais je rentre bientôt.
Un taxi. Un taxi qui la charge à la sortie de la boîte rue de Rivoli et qui va larguer son corps quelques heures plus tard dans une forêt de l'Oise. Quel taxi? On doit bien avoir la trace d'un taxi qui charge rue de Rivoli à 4h30 du matin. Les policiers font le tour des compagnies de taxi, la G7, les taxis bleus et les autres.
Désolé, hein. On n'a rien. Aucun de nos taxis n'a emprunté le trajet que vous nous avez communiqué, aucun.
En revanche, on a des nouvelles de la carte bancaire de Susanna. On s'en est servi, cette nuit-là. Une première fois, à 6h03, quelqu'un retire 200 euros au distributeur de la BNP de Senlis. À 6h46, nouvelle tentative de retirer de l'argent au distributeur BNP de Chantilly. Mais c'est un échec. Et 13 minutes plus tard, retrait de 100 euros dans un distributeur de l'Usarche. On est là tout près de l'endroit où on retrouve le cadavre. Et si ça se trouve, on a la tronche du tueur, parce qu'en général, dans les distributeurs, y a des caméras. La caméra du distributeur BNP de Senlis a filmé le retrait d'argent. D'assez haut, malheureusement, légèrement sur le côté, mais on voit son profil. C'est un homme entre 40 et 60 ans. On le voit composer le code, ses doigts sont boudinés. Il est vêtu d'une veste en cuir coupée trois quarts et il porte une casquette. Malheureusement, le bas de son visage est masqué par une écharpe blanche. Les gars du 36 retrouvent un chauffeur de taxi qui a stationné près de la Scala vers 4h20.
Ah ben oui, j'attendais un client. Et là, une jeune fille blonde avec un accent m'a demandé si j'étais libre. J'ai dit que non, c'est tout. Regardez bien cette photo, monsieur. Est-ce que c'est elle? Ah ben oui. Oui, je crois bien. Pour moi, c'est elle. Est-ce que vous avez vu peut-être un monospace blanc stationné près de vous? Ah ouais? Ouais, maintenant vous le dites, ouais. Mais j'ai pas prêté plus d'attention que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment, le monospace était plus là et la gamine n'était plus là non plus. Mais ce monospace blanc, là, c'était un taxi? Ah ben non, non. Il n'y avait pas de rodateur à l'arrière. Hein. J'en suis sûr, c'était pas un taxi.
Donc c'était un faux taxi. Un de ces taxis clandestins qui pullulent à Paris et qui profitent de la crédulité des touristes.
Mais oui, je suis taxi. Je vous promets, hein. Et je suis moins cher que les autres taxis.
Or, il se trouve que dans la maison Poulaga, il y a un service spécialisé dans la chasse aux faux taxis. Les Boer.
Salut, c'est le 36. Dis-moi, tu pourrais me dire si de faux taxis ont été repérés aux abords de la Scala, rue de Rivoli, dans la nuit du 18 au 19 avril?
Ça prend 3 minutes. 3 taxis clandestins ont été interpellés cette nuit-là aux abords de la Scala. Et vous vous souvenez que les flics de la crime ont une photo du gonze, les images du distributeur de Senlis. Alors ils les montrent au Boer.
Ouais. Bon, on voit pas les yeux, hein. Mais pour moi, le type là, c'est Cholet. Bruno Cholet. Je le connais, je l'ai eu en garde à vue il y a pas longtemps.
Bruno Cholet.
Ah ouais? Un coriace.
Les Boer l'ont pris en flagrant délit à la gare du Nord, ils l'ont pris en chasse. À un feu rouge, ils ont voulu lui sauter dessus, il est monté sur le trottoir, il a pris le large, ils lui ont collé aux fesses, là il a percuté un taxi, renversé un scooter, il a abandonné sa voiture et il est parti en courant. Et une heure plus tard, il est venu se rendre de lui-même. Sacré coco, que ce Bruno Chollet. D'autant qu'il a un casier, une montagne, 5 pages. Vous vous rendez compte? Faut en avoir fait des conneries. 5 pages. Vol avec violence, vol à main armée, tentative d'évasion, enlèvement et viol. Sa première condamnation remonte à ses 19 ans, un viol justement. Il prend 6 ans. Il sort 5 ans plus tard, il récidive 2 viols. Une gamine de 21 ans et une enfant de 12 ans. Et ça continue, hein. Décembre 1983, 3 viols, dont 2 avec arme, 18 ans de prison. Et au moment où on s'aperçoit qu'il est l'assassin de Susanna, il a passé plus de la moitié de sa vie en tôle. Ça fait 9 ans qu'il est libre. Et si vous voulez tout savoir, dans l'un des vieux dossiers, il y a une fille qui l'emmène dans une forêt et qui l'abandonne avec les mains liées dans le dos. Alors voyons ce que disent le portable et la carte bancaire de ce Bruno Chollet. Son portable d'abord. Il était coupé au moment de l'enlèvement et de l'assassinat. Il le coupe à 22h11 au niveau des Champs-Élysées. Il ne le rallume que le lendemain à 9h56. C'est important, hein, parce que d'une certaine manière, ça signe la préméditation. Je coupe mon portable parce que j'ai l'intention d'enlever une femme. La carte bancaire, maintenant. Le matin de la mort de Susanna, Bruno Chollet a réglé un parking d'hôtel Porte de Clichy. 9 euros. Une équipe va sur place. Il y a des images. Et on le voit avec son 3/4 en cuir et sa casquette et un sac en plastique à la main, bien rempli. À ce stade, on pourrait l'interpeller. Il y a assez de biscuits contre lui. Mais la crime demande à la BRI de le filocher. Il a repris son activité de taxi clandestin aux abords de la gare du Nord. Les policiers le filent discrètement, ils le laissent faire. 6 jours après le meurtre, vers 14h30, il le voit entrer dans un magasin de bricolage. Les flics rentrent derrière lui et il le voit acheter une pelle bleue. Vingt minutes plus tard, Chollet se gare dans le bois de Boulogne. Il remonte l'allée de Longchamp à pied et il entre dans une allée du sous-bois. Il s'arrête et les policiers le voient creuser. Et prendre un paquet qui était enterré, revenir à sa voiture et mettre le paquet dans le coffre. Et là, il redémarre et il prend la route de l'ouest.
Ok les gars, on le sert.
Chollet se laisse interpeller le plus calmement du monde. Monsieur Bruno Chollet, à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue pour assassinat. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre? Un sac plastique sur lequel il est écrit Susanna 377. Et dans le sac plastique, il y a une arme et un chargeur. Et puis des menottes et des gants. Il va avoir du mal à nier le zigoto. Mais en garde à vue, il nie. Mais j'ai rien à voir dans cette affaire, moi. Il connaît la musique. Ça n'est pas sa première garde à vue. Alors, eh bien, on lui sort les biscuits. Regarde ça, Chollet. Ça, c'est une photo tirée de la vidéosurveillance d'une banque dans laquelle on retire l'argent de la victime. Regarde bien. Ben, c'est pas moi, ça. C'est peut-être quelqu'un qui me ressemble, mais c'est pas moi. Ok. Au bois de Boulogne, le jour de ton interpellation, tu fais quoi? Ben, je me suis arrêté pour pisser. Hein? Pour pisser. Et c'est pour ça que tu portais des gants en latex. Exactement. C'est parce que je suis très propre. Et comme je pouvais pas me laver les mains, ben j'ai mis des gants. Et l'arme qu'on retrouve dans ton coffre, Chollet. Et c'est pas moi qui l'ai mis là. On me l'a mis. D'ailleurs, vous trouverez ni mes empreintes, ni mon ADN dessus. Hein. Elle est pas à moi. Il accuse les flics d'avoir mis l'arme dans sa voiture pour le faire plonger. Le juge, évidemment, n'en croit pas un mot. Et il le met en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort, le tout en récidive légale. Et là, on découvre les détails de son passé de prédateur sexuel. Et ça fait très peur. La première première affaire, par exemple, inscrite à son casier en décembre 1983. Chollet est interpellé pour un vol de carburant. Et là, on trouve du sang dans sa voiture. Alors on fait le rapprochement avec le viol d'une fillette de 12 ans. La veille, il l'a faite monter dans sa voiture. Sous la menace d'une arme, il l'a emmenée dans un bois, entre Senlis et Chantilly, et il l'a violée plusieurs fois. Ce qui a provoqué chez elle une hémorragie massive, une horreur. Après, il la ramène chez elle. Le père de la gamine le prend en chasse, course-poursuite, sur plus de 25 km, et là, accident. Il vole une voiture, il a toujours la gamine avec lui, hein, et il la dépose devant un hôpital. Et finalement, il est arrêté. Et là, on fait le rapprochement avec deux affaires en cours. Un braquage et un autre viol sur une majeure, une fille qu'il a prise en stop, qu'il a braquée avec un pistolet, qu'il a emmenée dans un bois, encore, et qu'il a violée, tout en promenant le canon de son arme, tout doucement, comme ça, sur son corps. Il l'abandonne nue dans le bois, les mains attachées dans le dos, avec une écharpe. Et là, bien sûr, il part en prison. Et il se lance dans une correspondance délirante. Il écrit à ses parents, au juge d'instruction, à son avocat, aux policiers, aux gendarmes, et même au garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, pour se plaindre, pour pleurnicher. « Je suis une victime de la société. J'ai pas eu de chance. On m'a jamais aimé. Il ne parle que de lui. » Pas un mot sur ses crimes ni sur ses victimes. Moi. Et il dit que si on ne le laisse pas sortir, eh ben il s'évadera. Il écrit « Je suis pire que Mesrine ». Et effectivement, un an plus tard, il tente de s'évader au cours d'un transfert. Il attrape l'arme d'un policier, il veut lui tirer dessus, mais le coup ne part pas. Alors on le ramène en cellule. Les experts psychiatres écrivent à cette époque qu'il est antisocial, qu'il est impulsif, qu'il est sans empathie et surtout qu'il est dangereux. Il est condamné à 18 ans de prison et il ressort sans aucune piste de réinsertion, aucun suivi. Et il replonge en tuant Susanna. V'là le bonhomme. Qu'il est en prison pour l'assassinat de Susanna, on retrouve les mêmes mécanismes de défense, la même manière de se plaindre, de crier à l'injustice. Par exemple, il se choisit une avocate, Maître Aurélie Cerceau. Il arrive au parloir avocat avec tout le dossier sous le bras, et des post-it, et des annotations. Il connaît le dossier par cœur, il a un argument contre chaque élément. Il est innocent. Ah bon? Alors pourquoi des tas de femmes, depuis qu'il a été arrêté et qu'on a vu sa tronche dans tous les journaux, se présentent au commissariat pour dire « Moi aussi, je suis monté dans un faux taxi. Moi aussi, j'ai cru que j'allais y passer. Heureusement que j'ai pu m'enfuir. » Il était en chasse. C'est un prédateur. Et d'ailleurs, pourquoi a-t-il déterré son arme dans le bois de Boulogne le jour de son arrestation? Eh bien, il avait un rendez-vous. Le soir même, avec une prostituée, une jeune, blonde, mince, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Susanna Zetterberg. C'est l'idéal féminin de Chollet. À part ça, il était libre depuis 1999. On est un peu surpris qu'il ait mis 9 ans à récidiver. Alors on ressort toutes les affaires non résolues dans lesquelles on a un ADN. Et on compare dossier par dossier, mais on ne trouve rien. Le procès approche, Chollet est toujours dans le déni, mais à la lecture du dossier d'instruction, il n'y a pas de doute, hein. Il y a des preuves par paquet de 12 que c'est lui. Par exemple, les balisticiens sont formels, c'est bien le 22 long rifle retrouvé dans son coffre qui tue Susanna. Mais il y a mieux que ça. Sur la crosse, on retrouve son ADN et celui de Susanna Zetterberg. Mais dans la tête de Chollet, figurez-vous que ce sont les policiers qui ont mis volontairement les deux ADN sur le pistolet. Oui, monsieur, pour le faire accuser à tort, c'est un complot. est-ce qu'il va continuer son numéro devant la cour d'assises? Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 4 septembre 2012. Et Chollet commence par faire son cinéma. Il s'évanouit. Il faut l'emmener à l'hôpital pour des examens.
L'audience est suspendue. Elle reprendra demain matin à 9h.
Le lendemain, il est là, mais il est intenable. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire que c'est pas lui, bien sûr. Et ça part dans tous les sens, et même ses avocats ne réussissent pas à le cadrer. Le troisième jour, eh ben il est pas là. Les surveillants l'ont trouvé nu dans sa cellule, il a refusé de s'habiller. Motif, ses conditions de détention. Il prétend que la veille, on l'a ramené trop tard en cellule, qu'il n'a pas pu manger ni se laver. Encore des pleurnicheries. Le lendemain, il est de retour dans le box et il pleurniche encore sur sa vie. Et il faut dire qu'il y a de quoi, hein. Reconnaissons-lui au moins ça. Son père ne l'a pas reconnu. Sa mère l'a abandonné à la naissance. À 6 mois, on le place en pouponnière. Aller-retour enfant entre chez sa mère et des foyers. Pour vous dire à quel point le gamin était mal, il s'est fait renvoyer de l'école maternelle. C'est pas banal, ça. Et à 7 ans, il a fait une sacrée fugue. Il prend le train à Paris et il va à Nice. Et après, placement en famille d'accueil, foyer, court passage chez sa maman, nouveau placement. La machine a broyé une enfance. Et un événement très traumatisant sans doute, que Chollet raconte à l'audience. À 13 ans, il est enlevé par 2 hommes.
Ils m'ont emmené. Ils m'ont violé. Ils m'ont sodomisé. Et ils disaient, elle est pas jolie, la petite pute. C'était moi, la petite pute.
Et là, on entrevoit une terrible réalité. Bruno Chollet n'a fait que reproduire ce qu'il a lui-même vécu. La victime est devenue bourreau. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est vrai. Le monstre qu'on est en train de juger pour le meurtre de Susanna Zetterberg est le fruit d'une enfance fracassée. La mère de Susanna vient à la barre. Son témoignage est bouleversant.
Depuis la mort de Susanna, je dors plus. Je prends des somnifères qui me donnent un sommeil sans rêve. C'est terrible, vous savez, parce que moi, je voudrais rêver. Les rêves, c'est le seul moment où je retrouve ma fille.
Monsieur Chollet, levez-vous. Qu'avez-vous à dire après le témoignage de cette maman?
Ben, ça remue quelque chose en moi. Ça me fait penser à ma propre sœur. Je suis triste qu'elle soit pas venue.
Moi, je suis triste que ma sœur ne soit pas venue. Il ramène tout à lui. C'est effrayant. Sans compter qu'il continue de nier l'évidence.
Je l'ai pas tué. J'ai jamais eu Susanna entre mes mains.
Que voulez-vous plaider, après ça? Maître Cerceau fait ce qu'elle peut. Elle fait son métier. Et ça se termine comme ça, perpétuité. Assorti d'une période de sûreté de 22 ans, il fait appel. Je vous épargne le deuxième procès. Il prend la même peine.
Ondelatte raconte sur Europe 1. Christophe Ondelatte.
Et pour débriefer cette histoire, je suis maintenant avec Maître Laure Moureux, qui est avocate au barreau de Paris. Maître, vous étiez dans ce dossier l'avocate des parents de Susanna. Revenons un instant sur ce procès, justement. C'est toujours difficile de rendre compte des procès. Vous y étiez les deux fois, n'est-ce pas?
Exactement. Tant en première instance en 2012, en septembre 2012, qu'en appel en mai 2014.
Alors j'imagine que pour vos clients, ce type qui refuse d'assumer des
d'expliquer, de reconnaître que c'est lui, c'est extrêmement pénible, c'est insupportable.
C'est évidemment insupportable quand on s'est un peu rajouté l'horreur à l'horreur, hein, parce qu'évidemment perdre son enfant dans des circonstances que vous venez de relater, c'est particulièrement monstrueux. Et lorsque on ose, puisque Bruno Chollet a fait ça, hein, vous regardez dans les yeux en vous disant « je comprends votre peine, mais je vous assure que je n'y suis pour rien », en dépit évidemment des éléments accablants. Contre lui, c'est évidemment extrêmement compliqué et douloureux à vivre. Et en même temps, paradoxalement, la mère de Susanna a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que finalement, elle aimait autant, presque, qu'il ne parle pas de sa fille. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que elle se disait qu'il pourrait raconter n'importe quoi sur les derniers instants de son enfant et ne pas dire la vérité, qu'elle n'apprendrait donc pas grand-chose. Et puis, surtout, parce que ça aurait été pour lui une manière de s'approprier son enfant. Et elle ne veut pas, et le père de Susanna non plus, qu'il fasse partie de leur vie. Et en niant avoir jamais croisé la route de Susanna, c'est un peu, finalement, pour eux, comme s'il n'avait jamais existé dans la vie de leur fille.
Comment il se comporte globalement pendant ces deux procès, il dépasse ses avocats, c'est-à-dire que ses avocats sont impuissants, en vérité, à le défendre.
Alors, ses avocats, c'est une position très très compliquée, hein, qui est la leur, mais c'est tout l'honneur de notre robe, hein. Mais il a en tout cas en première instance un comportement extrêmement compliqué, comme vous venez de le dire, dans les premiers jours, hein. Il fait son cirque, c'est particulièrement indécent face aux victimes qui ont vécu et qui vivent l'horreur, et il a un comportement tout à fait odieux qui va s'apaiser quand même au fur et à mesure des débats qui durent quasiment 10 jours de mémoire. Et ces avocats, oui, se trouvent par moments débordés par le comportement de leurs clients. Mais vous savez, en tant qu'avocat, on ne maîtrise pas tout à fait toujours les choses.
Son évanouissement, par exemple, c'est bidon.
Alors, son évanouissement, je ne sais pas si c'est bidon. Je ne suis pas médecin. Je pense qu'il était extrêmement anxieux à l'idée de comparaître devant la cour d'assises, parce que quoi qu'il en dise, les éléments sont tellement accablants qu'il savait exactement comment les choses allaient se dérouler. Le verdict n'a pas été une surprise, et je pense qu'il le savait très très bien au moment où il est rentré dans cette cour d'assises. Je ne sais pas, je ne prétendrai pas que son évanouissement du premier jour est bidon, mais quand on voit que le deuxième ou le troisième jour, il a refusé de s'habiller et qu'il est nu, et qu'il refuse de se vêtir, exactement, il refuse de se vêtir pour venir dans la cour d'assises et comparaître et répondre aux questions, alors que derrière, la porte derrière, il y a une famille qui pleure sa fille. Ouais. Vous voyez, ce type de comportement-là, en revanche, est délibérément scandaleux.
Et au procès en appel, il ne retient pas la leçon du premier procès.
Alors, en appel, il ne va pas se comporter de cette manière, mais sur le fond, les propos sont les mêmes, les dénégations sont les mêmes, les thèses du complot sont les mêmes, si vous voulez. Sur le fond, il va se défendre exactement de la même manière.
Un mot sur l'enquête. J'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a semblé vraiment ressortir, hein, de ce récit, que c'est une très belle enquête du 36 Quai des Orfèvres. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que vos clients l'ont vécu comme ça?
Alors, je ne sais pas tout à fait comment mes clients l'ont vécu, mais en tout cas, personnellement, je dois dire que c'est une enquête qui est ficelée, si je puis dire, en 5 jours.
Oui.
C'est quand même remarquable. C'est effectivement un travail d'enquête tout à fait exceptionnel, avec une mobilisation vraiment notable des enquêteurs. Mais
notamment
je dois dire
la mobilisation de la téléphonie quasiment instantanément, c'est-à-dire que ils font les demandes, les réquisitions, le procureur fait les réquisitions auprès des organismes de téléphonie, ça revient tout de suite, ils exploitent tout de suite, ils savent tout de suite quel a été son parcours. On voit ça rarement, hein.
On voit ça extrêmement rarement. Ils sont, bien sûr, c'est la brigade criminelle, hein, oui, bien connue, qui a été saisie très rapidement du dossier. Mais je dois dire aussi que, et je ne pense pas que la brigade criminelle m'en voudra, que je pense même qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que dans les enquêtes, parfois, il faut aussi avoir un peu de chance. Et là, ils ont eu la chance aussi, quand la criminelle contacte les Boers, donc cette brigade spécialisée.
Ils reconnaissent sur les quoi la...
Ils reconnaissent immédiatement sur cette photo prise au distributeur automatique, ils reconnaissent un des enquêteurs présents ce jour-là. Vous voyez, il y a une conjonction aussi d'éléments, reconnaît immédiatement, croit reconnaître en tout cas, et ça s'avérera exact, la silhouette de Bruno Chollet. De sorte que, immédiatement, compte tenu du pédigré de celui-ci, la criminelle va se dire, on a peut-être là quelque chose d'extrêmement sérieux, et qu'ils vont immédiatement mettre la BRI à ses trousses, si je puis dire, en tout cas en filature, et au bout de 48 heures, une interpellation, et l'interpellation du coupable.
Et c'était donc très fouté aussi... d'ailleurs de ne pas l'interpeller tout de suite, de le filocher comme ils l'ont fait, ou de le faire filocher par la BRI, parce que du coup ils ont une des armes du crime.
Eh bien, admettons qu'ils aient procédé à l'interpellation quelques heures avant, ils n'avaient pas l'arme du crime.
On est d'accord.
Donc c'est bien sûr leur expérience professionnelle et leur talent, leur qualité, mais c'est aussi parfois, c'est ce que je vous disais, parfois aussi de la chance.
Ce qu'il y a de très très frustrant dans ce dossier, c'est qu'au final on ne sait pas vraiment comment les choses se sont passées. Par exemple, à votre avis, est-ce qu'elle a été violée, Susanna ?
Alors bien évidemment, et vous l'avez rappelé, les investigations n'ont pas permis de déterminer si elle avait fait l'objet de violences sexuelles de quelque nature qu'elle soit. Et notamment parce que son corps a été en partie calciné et particulièrement, ce qui d'après moi est éloquent, particulièrement au niveau des zones génitales. Maintenant, si cette question n'a juridiquement pas pu être éclaircie, il m'apparaît clairement, compte tenu du parcours judiciaire de Bruno Chollet, compte tenu de ce que l'on sait, de son appétence pour les jeunes femmes, il m'apparaît clairement que là a résidé le mobile de l'enlèvement.
C'est le viol.
Ce qu'il s'est passé, exactement, je le crois. Je le crois. Est-ce que ça a eu lieu ? Est-ce que ça n'a pas eu lieu ? Je n'en sais rien.
Mais c'était
le but. Nous ne le saurons jamais. Mais je crois que c'est le mobile de l'enlèvement de Susanna, très clairement. Monsieur Chollet va ensuite se munir de ses cartes bleues, va lui avoir, avant de la tuer, extorqué ses codes de cartes bleues. On le sait, puisqu'il va réussir à retirer des sommes modiques aux distributeurs avec les cartes bleues de Susanna.
Tous les coups sur le visage, probablement.
D'où sans doute, les quelques traces d'hématomes sur le visage de cette pauvre jeune fille. Mais ça n'est clairement pas le mobile. Je veux dire, si vous voulez dérober de l'argent à quelqu'un, vous vous attaquez pas à une étudiante de 20 ans.
Où est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça se passe dans ce bois d'Avilly-Saint-Léonard ou ailleurs ?
On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que... elle sort de la Scala aux alentours de 4h30 du matin. Le dernier bornage de son téléphone, c'est sur l'autoroute A1 aux alentours de 5h15 du matin. Et ensuite, une heure et quart plus tard, son corps est en train de brûler. Il y a donc ce vide d'une heure, une heure et quart. Ce trou noir au cours duquel il va lui dérober ses cartes bleues, extorquer ses codes et la tuer. Mais on ne sait pas dans quel ordre les choses se sont déroulées.
Alors je voudrais qu'on parle maintenant d'une part délicate de ce dossier, c'est le profil intime de ce type Bruno Chollet, dont on connaît l'histoire grâce à l'enquête de personnalité. C'est un type qui a eu une enfance fracassée. Est-ce que vos clients, les parents de Susanna, ont été accessibles à cette question ou pas ?
Les parents de Susanna sont des gens tout à fait remarquables. Je ne dis pas ça parce que ils ont été mes clients, absolument pas. Je dis ça parce que tout le monde a été frappé par la dignité qui a été la leur tout au long de cette affaire, que ce soit à l'instruction ou au cours des deux audiences. Ces personnes sont vraiment d'une grande discrétion. D'une grande empathie, évidemment pas à l'égard de Bruno Chollet, absolument pas.
Mais est-ce qu'ils sont capables d'entendre que l'enfance de ce type est une destruction systématique d'un gamin ?
Alors, ils savent pertinemment quelle a été l'enfance de Bruno Chollet. Ils entendent ils entendent parfaitement que cette enfance peut mener. Une telle enfance peut l'avoir menée à des gestes criminels, et en même temps j'ai envie de vous dire que heureusement que tous les enfants qui malheureusement connaissent des enfances fracassées ne finissent pas violeurs récidivistes puis assassins.
Mais là il y a une explication qui quelque part nous concerne, parce que c'est le produit de notre société. On a eu récemment des enquêtes sur le fonctionnement de la DAS. Enfin, ce gamin a été baladé de foyer en famille d'accueil sans jamais trouver d'attache affective. On l'a démoli dès le début de sa vie, quoi.
Alors, je crois qu'il a été, effectivement, il y a des anecdotes de son enfance qui sont perturbantes, et d'ailleurs, c'est même assez pénible, parfois, à entendre. Mais je crois que ça ne suffit pas à expliquer le parcours de Bruno Chollet. Je pense que ça participe, bien évidemment. Il n'y a pas eu d'étayage affectif. Une famille extrêmement défaillante, des parents extrêmement défaillants, qui ont placé Bruno Chollet, mais ont élevé la petite sœur. Donc, vous voyez, il y a des choses extrêmement compliquées pour un enfant à vivre, mais ça ne suffit pas à expliquer les choses d'après moi. Et puis les experts psychiatres l'ont dit, je ne pense pas qu'on devienne psychopathe, parce que un des experts psychiatres a employé ce terme,
oui.
Psychopathe, c'est avec une incapacité totale d'adaptation, une transgression systématique de toutes les règles sociales qui sont les nôtres. L'enfance martyrisée, l'enfance blessée ne peut suffire à elle seule à expliquer une telle personnalité.
Est-ce que vous croyez que pendant les 9 ans qu'a duré sa liberté, entre sa libération de prison et l'assassinat de Susanna, comme semble le dire l'enquête, il n'a pas récidivé, que c'est sa première récidive?
Je me garderai bien d'émettre des hypothèses sur ce qu'ont pu être ses comportements entre ces deux périodes de longue incarcération. Il a forcément transgressé entre les deux, il a passé sa vie à transgresser. Il a passé sa vie, son casier en témoigne, il a passé sa vie à transgresser, mais pas que en matière sexuelle. Je veux dire, il n'y a pas eu que les condamnations criminelles pour viol. Il y a toutes sortes
de
petites condamnations, des braquages, des petites escroqueries, tout. Il n'y a pas une règle qui n'est pas transgressée. Donc je n'imagine pas qu'il ait eu un parcours exemplaire entre deux incarcérations, je n'imagine pas, mais je ne sais rien. Ce que nous savons par le dossier, en revanche, c'est qu'il avait quand même une activité illégale à nouveau, que vous l'avez rappelé, quand les policiers ont tenté de l'interpeller quelques semaines avant, il a tout fait pour s'échapper au risque de blesser, voire pire, des gens dans la rue. Voilà, c'est ça Bruno Chollet.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Cette affaire, Susanna Zetterberg, va se poursuivre aujourd'hui. On va s'intéresser à la psychologie de son assassin, Bruno Chollet, dans On de la traconte, côte B. On ouvrira le dossier d'instruction de ce violeur multirécidiviste qui a passé la moitié de sa vie en prison. Ce sera donc de 14h à 15h aujourd'hui, vendredi, sur Europe 1. Venez avec nous, c'est Stéphane Bern que l'on va retrouver dans un instant. Il va nous raconter la véritable histoire de Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Au cœur de l'histoire, c'est donc juste après cette petite merveille qui figure sur la réédition de l'album L'impermanence d'Alain Chamfort. Ça s'appelle Une éclaircie sur le jardin.
Éclaircie sur le jardin, le ciel vire au bleu. Peut-être bien une éclaircie sur le jardin. Éclaircie sur le chagrin, accalmie entre deux grains. Un sourire, peut-être bien une éclaircie sur le jardin. Sur le jardin.
éclaircie sur le jardin. On adore, voilà, comme ça, dans l'écrin de cette nuit, ce diamant sonore signé Alain Chamfort et que vous retrouverez sur la réédition de son album L'Impermanence. Je rappelle qu'Alain Chamfort n'enregistrera plus d'albums, c'est sa décision. Voilà, cet album, c'est le point d'orgue à une carrière démarrée il y a un peu plus de 50 ans. Il fait la lumière sur des personnages, des événements, des lieux historiques, tous les après-midi de 15h à 16h sur Europe 1. C'est Stéphane Bern, voici Au cœur de l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, à 15h sur Europe 1 et encore en 2025, pour mon plus grand bonheur, et le vôtre aussi j'espère, chers auditeurs, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, je vous raconte un écrivain anglais qui a créé un héros qui l'a dépassé, Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. De qui l'auteur s'est-il inspiré pour créer son personnage culte? Pourquoi l'a-t-il autant détesté? Quel était le rêve secret d'Arthur Conan Doyle? Et est-ce vraiment élémentaire, mon cher Watson? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité, romancier, fidèle lecteur des aventures de Sherlock Holmes et biographe de son créateur, François Rivière, découvrons d'abord le destin d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes en décembre 1893 en Angleterre quand The Strand perd soudain 20 000 abonnés. Les lettres affluent à la rédaction du mensuel illustré. Des lecteurs et des lectrices en colère exigent le retour du héros dont ils suivent assidûment les aventures depuis maintenant plus de 3 ans. Il paraît même que certains portent un brassard de crêpe noire pour signifier leur deuil d'un personnage pourtant bien fictif. Fictif, certes, mais pas n'importe quel personnage. On parle là de Sherlock Holmes, le détective excentrique du 221B Baker Street, qui vient de trouver la mort dans la nouvelle « Le dernier problème ». Et à part son créateur, Arthur Conan Doyle, personne ne se satisfait d'une telle disparition. Des rumeurs prétendent même que le malheureux auteur se fait cracher dessus par des fans qui le croisent, qu'il se fait traiter de brut ou d'assassin. L'histoire a sans doute été exagérée avec le temps, mais il n'empêche, la mort de ce personnage d'encre et de papier suscite une réaction inédite. Jusque-là, les lecteurs de fiction acceptaient assez facilement les mille et un tourments qui s'abattaient sur leur héros de feuilleton. Mais Sherlock Holmes est différent. L'enquêteur exceptionnel aux facultés d'observation quasi divinatoires a conquis le cœur du lectorat britannique et américain. Nous sommes encore loin de l'influence considérable que l'enquêteur fictif aura sur la culture mondiale, traduit dans des centaines de langues, porté à l'écran des centaines de fois et largement copié. Sherlock Holmes est aujourd'hui une icône, un mythe culturel. Mais à l'époque, il est surtout un empêcheur de tourner en rond pour celui qui l'a imaginé. Arthur Conan Doyle est un Écossais gigantesque aux prouesses sportives presque aussi impressionnantes que son héros. Docteur de métier comme John Watson, l'éternel comparse de Sherlock, il a la vocation des lettres depuis son plus jeune âge et essaye tant bien que mal de vivre de sa plume depuis des années. Lecteur passionné, il a écrit de nombreuses nouvelles inspirées de Jules Verne, Edgar Poe, Robert Louis Stevenson, Walter Scott et autres grands noms, mais il n'a jamais rencontré un si grand succès qu'avec son détective hors pair et ses enquêtes haletantes. Mais ce n'est pas là une gloire dont Conan Doyle peut se satisfaire. Selon lui, Sherlock Holmes l'empêche de s'occuper de choses meilleures, au point qu'il ne peut plus le supporter. Ainsi, écrit-il à sa mère durant la rédaction de la supposée dernière aventure de son détective. « Je suis au milieu de la dernière affaire de Holmes, après laquelle ce gentleman disparaît pour ne plus jamais revenir. Son nom seul m'insupporte. » Sherlock devait mourir et c'est chose faite. Mais avant de lui donner la mort, Arthur Conan Doyle lui a donné vie et s'est inspiré pour cela de personnages bien vivants. Et oui, Sherlock Holmes a beau n'être qu'une créature imaginaire, Arthur Conan Doyle a puisé son inspiration dans son époque et dans certains personnages de chair et de sang qui ont croisé sa route. Le premier, le plus fameux, le professeur Joseph Bell. Arthur Conan Doyle assiste à ses cours à l'université d'Édimbourg pendant ses études de médecine. Nous sommes en 1877 et le jeune Arthur, alors âgé de 18 ans, est subjugué, tout comme ses camarades, par l'éminent chirurgien qui leur fait en direct la démonstration de ses talents. Il est capable, grâce à ses dons d'observation et de déduction, de déterminer les activités, métiers, moyens de locomotion, classe sociale et d'innombrables autres détails sur la vie de ses patients. Conan Doyle a plus tard relaté ce dialogue qui en dit long sur les talents de Joseph dit Joe Bell. Ancien soldat, n'est-ce pas, sur le professeur? Oui, monsieur. Libéré depuis peu? Oui. Sous-officier? Oui. En garnison à la Barbade? Oui. Le professeur explique ensuite sa prophétie qui a mystifié son assemblée d'étudiants. Cet homme, messieurs, avait gardé naturellement son chapeau sur la tête. Dans l'armée, on ne se découvre pas. Ce qui m'a fait songer à la Barbade, c'est son éléphantiasis, une maladie des Indes occidentales et non d'Angleterre. La méthode qu'il enseigne à ses élèves est très semblable à celle prônée par Sherlock Holmes lors de ses enquêtes. Il leur intime en effet d'observer soigneusement, de déduire astucieusement et de confirmer avec des preuves. Mais plus que la méthode, c'est toute la personne du professeur qui inspire Holmes. Ils ont tous deux une longue et fine silhouette, le nez aquilin, de multiples talents sportifs et d'innombrables connaissances dans des domaines divers. Joseph Bell est ainsi le premier inspirateur du détective et Arthur Conan Doyle le revendique comme tel en lui dédiant le recueil « Les aventures de Sherlock Holmes ». Mais Joseph Bell, lui, minimise les capacités que lui prête son élève et déclare « Le docteur Conan Doyle, à part sa géniale imagination, fait beaucoup à partir de peu de choses. Le souvenir chaleureux qu'il conserve d'un vieux professeur a enjolivé le tableau ». Il n'est néanmoins pas le seul homme qui a permis de construire la figure de Sherlock Holmes. En effet, l'excentricité de Holmes, qui est loin d'être un colocataire idéal pour le docteur Watson, viendrait d'un ancien camarade de faculté de médecine de Conan Doyle, George Budd, avec qui il a un temps partagé un cabinet, mais les deux hommes se sont avérés très différents dans leur pratique. George Budd est un charlatan qui se joue de la crédulité de ses patients. Le chevaleresque Conan Doyle est certes impressionné par son audace, mais leur entente ne dure pas. Le personnage le marque pourtant fortement et son excentricité lui inspire la nouvelle « Les lettres de Stark Munro » des années après leur collaboration. Pour créer Sherlock Holmes, Conan Doyle aurait également saupoudré le portrait impressionnant de son ancien professeur Joseph Bell des quelques originalités de son camarade Bud. Mais là encore, pas uniquement. Car Conan Doyle puise aussi dans la littérature pour construire son détective. Et cette littérature est elle-même fortement marquée par l'histoire avec un grand H. On peut ainsi en remonter le fil jusqu'à un héros bien français. En 1857, deux ans avant la naissance d'Arthur Conan Doyle, meurt Eugène François Vidocq, ancien bagnard devenu indicateur puis policier et enfin détective privé. Sa vie qui dépasse la fiction va inspirer de nombreux auteurs, de Balzac avec Vautrin à Hugo dans Les Misérables, en passant par Dumas. Et l'histoire de Vidocq rencontre même un écho outre-Atlantique où Edgar Allan Poe signe en 1841 la première aventure du Chevalier Dupin, un enquêteur français dont la nationalité est un hommage à l'ancien bagnard. Les exploits de Dupin dans Double assassinat dans la rue Morgue, le mystère de Marie Roger, la lettre volée, passionnent Arthur Conan Doyle qui les découvre à l'adolescence. Ces récits le marquent durablement et les enquêtes de Sherlock Holmes leur doivent évidemment beaucoup. Enfin, Conan Doyle trouve également l'inspiration en lisant les enquêtes de Monsieur Lecoq, le héros de l'écrivain français Émile Gaboriau. Le ton de ces énigmes est très réaliste, et si Lecoq dispose également de grandes capacités de déduction et ne rechigne pas, comme Sherlock Holmes, à se déguiser, sa méthode le rapproche de la police scientifique de l'époque, dont les progrès sont grandissants. De Joseph Bell à Lecoq, Sherlock Holmes est le résultat d'un amoncellement de personnages et enquêteurs aux traits remarquables. Arthur Conan Doyle a ensuite tamisé toutes ses influences pour en tirer l'or que constitue Sherlock Holmes. Mais c'était une pépite qu'il fallait tailler pour qu'elle rayonne. Et nous devons là saluer le talent littéraire d'Arthur Conan Doyle. D'ailleurs, ne serait-il pas lui-même le premier inspirateur de son enquêteur? Même si Conan Doyle prend son héros en grippe, il semble en effet lui coller à la peau. Quand il prend la plume en 1886 pour écrire le premier roman du canon holmésien, Une étude en rouge, Arthur Conan Doyle met de sa vie et de ses expériences dans ses récits. Pour le duo principal, l'auteur s'est lui-même divisé en deux. John Watson, le docteur écrivain qui raconte les aventures de Holmes, C'est lui, bien sûr. Sur les illustrations des aventures de Sherlock Holmes, ce bourgeois gentleman lui emprunte même sa moustache. Mais Sherlock, ses lubies diverses, ses connaissances, sa curiosité, sa mémoire et même ses capacités sportives, c'est aussi Conan Doyle. L'enquêteur de fiction cache dans sa silhouette longiligne une force de colosse qu'il partage avec son créateur. Car si Arthur Conan Doyle est un homme accompli au moment où il entame l'écriture, son éducation n'eut rien d'évident. À 27 ans, ce gentleman qui rêvait de grandeur littéraire est devenu médecin par la force des choses. Son père, Charles Doyle, un artiste raté, sujet à la dépression et à l'alcoolisme, n'est plus capable depuis quelques années de subvenir aux besoins de sa famille. C'est sur les épaules de Mary, son épouse, celle qu'Arthur appelle la mame, que repose le poids du foyer tout entier. Bien vite, le jeune Arthur a conscience qu'il lui incombe aussi de soutenir sa famille en se tournant vers les études de médecine, un métier qui rapporte. Mais c'est bel et bien la littérature qui l'attire. Gamin bagarreur aux notes moyennes, Conan Doyle commence tout juste à écrire des récits qui suscitent vite l'intérêt de ses proches. Ses oncles et tantes cultivent son intérêt en lui envoyant des livres, en lui faisant découvrir leurs auteurs favoris, en lui offrant aussi des voyages prompts à enflammer son imagination débordante. En particulier, une visite à Londres en 1874 chez sa tante paternelle. Arthur se rend entre autres chez Madame Tussaud, l'équivalent de notre musée Grévin, dont la chambre des horreurs aux effigies de meurtriers l'impressionne beaucoup. Un musée situé, à l'époque où le jeune Arthur le visite, à Baker Street, dans la même rue que l'appartement fictif qu'occupera son héros Sherlock Holmes. Au collège, chez les jésuites, Arthur développe ensuite ses capacités physiques et devient un boxeur, un nageur, un joueur de cricket et de hockey talentueux. À côté de cela, Conan Doyle compose des poèmes et dirige la revue littéraire. Après une année en Autriche, il rentre au Bercail et commence alors ses études de médecine. Mais il poursuit ce qui est devenu un hobby en parallèle des affaires plus sérieuses de l'anatomie. C'est durant cette formation qu'il rencontre le professeur Joseph Bell, l'homme qui lui inspire Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle sacrifie son argent du déjeuner pour s'acheter des classiques et se former à l'écriture en lisant ceux qui l'ont précédé. Assistant de médecin, il s'attaque à l'écriture. Sa première nouvelle est publiée en 1879 dans le Chambers Journal. Après 7 mois au goût de romans d'aventure, comme chirurgien de bord sur un navire baleinier, il participe à une expédition sur l'île écossaise de May et, dans son compte-rendu, mentionne un certain Holmes qui s'est désisté au dernier moment. Cette première occurrence est amusante d'ailleurs, mais Sherlock doit surtout son nom de famille à un autre écrivain médecin que Conan Doyle admire beaucoup, Oliver Wendell Holmes. En parallèle de ses voyages, il publie nouvelles et comptes rendus dans divers journaux, mais rien d'assez substantiel pour s'y consacrer entièrement. Sauf que Conan Doyle n'attire pas plus les lecteurs que les patients, et son cabinet reste assez peu fréquenté. En 1882, il s'est installé avec son frère cadet Inès et continue de soutenir financièrement le reste de sa famille. Malgré ses difficultés, il parvient à embaucher une gouvernante qui a sans doute inspiré la logeuse de Holmes et Watson, Mrs. Hudson. Elle s'appelle Mrs. Smith et occupe le sous-sol de la maison. Mais la vie de vieux garçon d'Arthur Conan Doyle s'achève bientôt. En 1885, alors qu'Inns quitte son grand frère pour l'internat, Arthur Conan Doyle rencontre celle qui deviendra sa première épouse, Louisa Hawkins. Louise arrive à son cabinet pour soigner son fils qui souffre d'une méningite aiguë. Il en décède hélas quelques jours plus tard sous le toit de Dr. Doyle, qu'il a gardé près de lui pour le soigner. Cette situation rapproche le célibataire de la jeune mère éplorée, et un an après, l'écrivain qui ne l'est pas encore se marie avec celle qu'il décrit comme la plus douce et gentille des femmes. La même année, paraît enfin une étude en rouge, la première aventure de son enquêteur, dans un magazine sans grande ambition littéraire, faute d'éditeur. Dépité parce qu'il considère comme un échec, Conan Doyle se tourne alors vers les